de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
La nature et les hommes, écrivait Hölderlin, en tant que rapport réciproque constituant un monde, se décompose afin que d'eux se forme un monde nouveau. Cette phrase du devenir dans le périssable, Jean-Noël Vuarnet nous en donne à découvrir la clé de l'alliance du monde ancien et du monde futur qu'est le présent. Pour nous le mieux dire, le Gulliver de Vuarnet est enfant et adulte, toujours à contre-temps avec le monde. Jean-Noël Vuarnet, 1944-1996, suicidé à Paris à l'âge de 51 ans, docteur angélique, comme le surnommait Pierre Klossowski, rencontrait en 1985 Gérard-Julien Salvi pour une double publication qui ne sera pourtant diffusée que plus tard et finalement rééditée en 2004. « Voilà, c'est le rêve, dit-il, d'un enfant lumineux mourant. »
Démarche. Gérard-Julien Salvi, Jean-Noël Vuarnet. Jean-Noël Vuarnet vient de publier « Personnage anglais dans une île » aux éditions du Sorbier.
Personnage anglais dans une île, et Senex Puerilis, deux livres dans un seul volume, mais un seul apparaît sur la couverture du livre, le plus court.
Pourquoi ? Parce que je me suis dégonflé à mettre un titre en latin, n'est-ce pas ? Senex Puerilis. Ah, le latin, ça se perd. J'ai oublié de quel poète latin elle est. Barthes la cite comme d'un poète latin.
Que lisiez-vous à l'époque où vous écriviez ?
J'écrivais quoi ? Ça ? Des auteurs latins, des Modet, Cicéron, des gens comme ça. Ça se voit dans les phrases, j'ai essayé d'imiter. Mais ce que je voulais, c'était écrire comme lui, surtout lui, qui n'est pas le plus grand. J'aime mieux Virgile. Mais je voulais écrire comme lui pour décrire des choses qui, normalement, ne sont pas décrites dans la syntaxe latine. C'est-à-dire, si vous décrivez un embouteillage avec les quatre L du Parti communiste... Non, les Rolls du Parti communiste, les 4L des Brigades Rouges, je sais pas quoi. Dans une phrase, une période à la Cicéron, eh bien, vous avez une explosion étrange, un choc de langue et de monde qui est le choc peut-être de notre monde. Et quand j'ai posé la question à un jour où j'interviewais, parce que je peux moi aussi, à William Burroughs, que vous n'aimez pas, mais que moi j'aime bien. Eh bien, j'ai dit, quel est votre auteur favori ? On était à la radio. Je dis, en anglais, je parle mal. What is your favorite ? Il me dit, mais enfin, bon Dieu. Non, il n'a pas dit bon Dieu. Il est beaucoup plus poli que ça. Il a dit, mais enfin. Pétrone, évidemment.
Et vous, ce serait qui, évidemment ?
Pétrone, évidemment. Abyssus, abyssum, invocat. Je ne traduis pas. Le latin, c'est plus transgressif que l'argot. Hein. Si je disais des choses grossières, c'est du latin, et je ne traduis pas. Et puis alors, Deus est Giordano Bruno. Deus est natura in rebus. Ou encore, ça c'est la version de Spinoza, natura sive Deus. Deus sive natura. Je ne voudrais pas, me disait un de mes collègues, j'avais fait un cours un peu bien sur Spinoza l'autre jour, je ne voudrais pas, m'écrivait-il, que tout cela s'effectue au détriment de votre santé. C'est gentil. Alors, en conclusion, j'ai parlé comme je pouvais, je voulais, c'est pas de la tarte, j'ai parlé de cétoine, de pivoine et d'arc-en-ciel, et d'amour. Alors, encore une phrase latine, la plus belle que je connaisse de toutes. Ça, Cicéron pouvait se brosser, je sais pas de qui elle est. De Virgile, sans doute. Nulla sine te nox, nulla linea. C'est une phrase d'amour. Sans toi... il n'y a pas de nuit et pas de jour. Alors, vous voyez, moi, je ne suis pas chrétien, mais j'ai écrit un livre sur les chrétiennes, les mystiques, les Sainte Thérèse. Et je ne suis pas chrétien, mais je suis devant le tombeau vide, comme nous toutes. Enfin, bon, où l'a-t-on mis? Ou, comme dit Marie-Madeleine, où es-tu? Il me manque. Il me manque. Je suis un mystique sans Dieu, c'est pas de la tarte. Faut le faire. Alors, je parle de cétoine, de pivoine, d'arc-en-ciel, où je parle de quand j'ai vu pour la première fois une cétoine dans une pivoine, quand j'avais 5 ans, un jour de Pâques. Ça fait chrétien, tant pis, un jour de Pâques, le ciel bleu, les cloches.
Y avait-il un arc-en-ciel?
Comment?
Y avait-il un arc-en-ciel?
Je sais pas, mais je crois. Je crois. En conclusion... je citais Wordsworth dans le poème, enfin la fin du petit roman, et je le recite. Je l'ai bien cité. C'est plus facile de citer à la radio. Pardon pour mon accent. C'est attendez, j'ai peur de me tromper. The things which I have seen, I now can see no more. Ah, retrouverons-nous cette splendeur de l'herbe? Splendor in the grass. The things I have seen, I now can see no more. The rainbow comes and goes, and lovely is the rose. Je traduis, ça fait rien, c'est simple, on peut traduire. Les choses que j'ai vues, je ne peux plus les voir. L'arc-en-ciel va et vient. La rose est jolie, comme disait Silésius, l'ange.
C'est votre traduction?
Du nom de Silésius?
Non, de cette phrase.
Elle est mal traduite?
Elle donne
ça fait rien, j'ai improvisé.
Une interprétation très tirée.
Tirée dans mon sens? C'est toujours ce qui se passe quand on fait un collage. Et on a le droit. Parce que sinon, lisez Wordsworth. De toute façon, c'est toujours mieux que Jean-Noël. Mais si vous lisez Jean-Noël citant Wordsworth, il a bien le droit.
Pourquoi écrivez-vous en français?
Parce que je ne sais pas assez les autres langues. Si je t'en savais un peu plus, j'essaierais de faire comme Joyce. Mais de toute façon, c'est fait. De les mélanger. Alors, je les mélange un tout petit peu. Des fois, il y a de l'allemand alors que je ne sais pas l'allemand. C'est ma femme qui me colle une phrase allemande très belle par-ci, par-là. Les typographes se trompent, mais ça fait rien.
Mais n'avez-vous jamais été tenté de changer de langue?
Si je savais, j'écrirais n'ayons pas peur des mots. En italien, bien sûr.
Pourquoi pas en anglais? Puisque vous aimez tant le latin.
J'ai parfois écrit en anglais, mais ça, je m'en vante pas. Personne ne le savait avant aujourd'hui.
Que c'était de l'anglais?
Oui, ça ressemblait pas à de l'anglais, mais moi j'aimais bien. Et j'obtenais un grand succès comique parce que je voulais les montrer à quelques amis anglais et je leur ajoutais de l'autre main « I am the translator in France of James Joyce ». C'est vrai, hein, c'est pas pour me vanter, c'est hélas vrai. J'ai bien traduit, mais je traduis comme du latin. Là, j'ai mis un an et demi pour traduire 80 pages. Bon, ça les faisait rire. Et alors, quand après, je leur balançais mes poèmes, mes English poems, ils se roulaient par terre en me donnant des claques dans le dos. « Frenchman
!» Lorsque ce livre est arrivé chez vous, comment avez-vous réagi?
Je préférais la première édition, mais là, ce qui m'importe beaucoup, dans cette seconde édition, c'est que cette édition a un rebond. C'est-à-dire, il y a un petit roman, j'appelle ça roman, ça fait 30 pages, suivi de quelque chose de peut-être plus important, en longueur, et peut-être même en vérité, mais qui pour moi compte moins, effectivement. On a le droit, quand on dit j'aime un livre, Alors, le deuxième, si vous voulez, c'est l'épanouissement naturel, j'espère, de l'autre. Et là où l'autre parlait de l'infini matériel, de la beauté du monde, sous la métaphore des étoiles, celui-là parle de la même chose, sous la métaphore des cétoines et des pivoines, mais dans une horreur du monde, beaucoup moins imaginaire. C'est pas les ordinateurs et les fantasmes, c'est l'horreur d'être... allez, je cite une phrase. Au cœur de l'Éden, Adam manifestait déjà cette inaptitude au bonheur dont nous avons tous hérité.
Qu'entendez-vous par épanouissement naturel de...
Je ne sais pas bien, je perds le fil, mais il n'y a pas de fil. comment dire ?
Oui, l'épanouissement.
Si vous voulez, je cherche ma pensée mystique. Pendant longtemps, j'ai eu peur de passer pour un chrétien. Maintenant, je m'en fous. De toute façon, je ne suis pas chrétien. Et je ne suis peut-être même pas mystique. Mais je crois que certains écrivains, comme Marcel Proust, par exemple, quand il a parlé d'Aubépine, cherchaient sa pensée mystique. Et il n'était pas chrétien. Et peut-être il n'était pas mystique. Bien sûr, la référence m'écrase. Mais j'ai même été jusqu'à faire une allusion aux Aubépines. Pas loin de la fin, à côté de mes pivoines. Et comprenne qui pourra.
Qu'avez-vous écrit après ?
Ben plus rien, parce que ça m'a vidé. 5 ans d'effort, c'est trop. C'est trop. Si j'ai écrit un petit texte dont ma femme dit que c'est ce que j'ai fait de mieux, mais le titre est mauvais, ça s'appelle « Frères ailés, joyaux vivants ». Alors ma femme dit que ça lui fait penser à Saint François de... C'est, ça fait cateau comme titre, mais bon, moi ça me plaît. Et en tout cas, c'est un texte sur les papillons, qui sont encore une métaphore. Si vous voulez, il y a eu les étoiles, c'est Gulliver, personnage anglais. Hein. Et puis il y a eu les cétoines et les pivoines, et là il y a les papillons, mais c'est pareil. Et encore une phrase latine, là je vais la traduire, « In minimis natura maxime miranda ». C'est dans les petits que la nature est le plus admirable, les tout petits. Les enfants, j'aime pas les enfants, mais quand même, comme disait Céline, passons. Ou les petites femmes, ou les petits garçons, enfin, les petites choses que la nature est le plus admirable. Je m'en convainc, c'est pourquoi mes héros, si je puis dire, c'est des petits héros. Un ami m'a écrit que j'avais fait les grandes orgues avec Extase Féminine, et que là, je faisais de la musique de chambre, et que c'était bien mieux. Seulement, il faut déjà avoir 40 ans pour oser faire de la musique de chambre et admettre que je ne suis pas Gustave Mahler ou Wagner. Et au fond, tant mieux. Comme disait Chesterton, un humoriste anglais, une force excessive ou brutale, enfin, s'exprime par la violence. Non, une force moyenne s'exprime par la violence, une force suprême s'exprime par la légèreté.
La musique de chambre de Wagner est tout à fait supérieure.
Je ne connais pas. Je fais pas l'âne, je ne connais pas. Je ne savais même pas, j'aurais jamais cru, j'aurais pas aimé être dans la chambre avec lui en tout cas.
Il l'a joué dans l'escalier, enfin, on joue là où on peut.
Mon chat qui a du goût.
C'est peut-être plus pratique.
Qui a du goût et qui est un baromètre parce que je sais qu'un texte est littéraire quand il y a un chat. Quand il y a mon chat, avec son prénom, je ne le dis pas, c'est un secret. Mais quand il y a mon chat dans un texte, je sais que c'est littéraire. Puis s'il n'y a pas le chat, j'en conclue que c'est de la philosophie. Dans ma thèse, il n'y a pas le chat. Il n'aime pas Wagner, ça lui fait gonfler la queue, mais pas en un sens... gonfler de rage. Puis il court sous les lits et il me dit « Arrête cette musique ». Je lui dis « Enlève ton pyjama si t'es un homme ». Il n'aime pas, et d'ailleurs moi non plus.
Avez-vous besoin de musique lorsque vous écrivez ?
Évidemment.
Évidemment quoi ?
Évidemment oui.
Évidemment quelle musique ?
Mozart. Non, c'est pompier comme réponse. C'est quand même vrai, mais...
Non, ça pourrait être plus précis, surtout.
Les légers. Légers au bon sens. Mozart, Monteverdi, Dania. Ou bien ça peut être une musique de taverne irlandaise, qui est elle aussi légère comme la light beer. Enfin, ça peut être la chanson de Finnegan, celle qui a fait que Finnegan's Wake est un livre beaucoup moins lourd qu'on ne croit. Et plus drôle.
Est-ce que ce que vous écrivez est drôle ?
Non, ça, je voudrais bien, mais non. Mais c'est déjà moins sinistre qu'avant. Et j'ai été très reconnaissant à l'illustrateur de mon petit bouquin. Il a mis un Pinocchio sur la couverture. Et pour un livre qui se passe en Italie, qui s'appelle « Personnage anglais », mettre un Pinocchio, et vu aussi que j'ai le nez un peu long, c'est rigolo. C'est bien, ça enlève ça assèche mon côté parfois d'un certain mauvais goût. Un jour, quand j'avais publié Tanger, un de mes meilleurs amis très célèbre, je ne dirais pas le nom, il m'a écrit « Jean-Noël, merci pour ce mauve égout, les mauves égouts de Tanger ».
On a dû le reconnaître.
Oui, au passage. Et vous voyez, cet ami avait raison. Et mon mauve égout, j'y tenais. Après tout, les orchidées, les femmes, et j'en passe, ce sont de mauves égouts. Il faut bien en parler. Mais il y a un moment où vous en parlez au passage, dans la légèreté. Et c'est le moment Pinocchio, ou le moment gullivérien du regard sur les égouts et sur la beauté. C'est le moment où tout vous est rendu, ne serait-ce qu'un petit moment. Tout redevient beau, le temps de le temps que ça dure.
Et après ce moment, qu'y a-t-il ?
Une dépression nerveuse, par exemple, mais je ne crois pas que je vais la faire, mais ça peut très bien être ça. Quand Pascal écrit « Joie, pleure de joie », il est joyeux. On dit toujours dans les universités que c'était un tragique. Il est tragique et gai, comme Nietzsche. Mais regardez la joie finale de Nietzsche, ce que Pierre Klossowski a appelé l'euphorie de Turin. C'est une euphorie que je ne souhaite à personne.
Est-ce que vous tournez autour ?
Non, j'en suis pas là. J'ai pas son âge et j'ai pas la vérole. Lui est d'abord.
Et vous ne prenez jamais le train en plus.
Non plus, je chanterai jamais des chansons vénitiennes, des barcaroles à mon meilleur ami Peter Gast. Cependant, on pourrait finir sur lui parce que je l'aime bien. Puis ça fait philosophe, c'est mon métier. Il faut pas qu'on me prenne entièrement pour un poète, ça serait mauvais pour ma carrière. Eh bien, en somme. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a enfin été tiré de l'asile ? Il jouait du piano encore. Peter Gast pensait que le maître faisait semblant d'être fou. Ce qui prouve qu'il n'y connaissait rien en psychiatrie. Mais enfin, il a dit une chose à sa sœur, Lily, Elisabeth, le personnage de tous mes livres, au moins au niveau du prénom, la femme de Stavrogin. Lily. Mais elle avait épousé un député nazi à qui elle offrirait plus tard la canne du maître. Bon, passons. Un beau jour, il se taisait depuis plusieurs années. Il avait cette tête de vieux brahmane, tout en blanc, dans son rocking chair. Et il lui dit, « Tu vois, Lily, nous l'avons enfin, notre petite maison, avec vue sur le Neckar. » Et pourtant, il était déjà fou. Et là, je contreviendrai à la phrase de Michel Foucault, que j'admire tant, pourtant, et qui est le maître de la pensée sur la folie. Foucault a dit, « La folie, c'est l'absence d'œuvre. » Eh bien, je ne partage pas ce point de vue. La folie imprégnante, c'est l'absence d'œuvre. Mais je crois que la folie non imprégnante, on peut être plus ou moins imprégné, c'est comme avec l'alcool. Mais tant qu'on n'est pas imprégné tout à fait, au contraire, on est dans l'œuvre. Alors, j'ai qu'un regret, c'est d'être pas plus fou. Et pourtant, ça doit pas être drôle d'être fou. Ou si, ça doit être drôle, mais alors trop. Trop drôle. On doit éclater de rire à chaque instant. Éclater de rire.
Démarche, Gérard-Julien Salvi, Jean-Noël Vuarnet qui vient de publier « Personnage anglais dans une île » aux éditions du Sorbier. Réalisation André Mathieu. Strangers, just.
C'était une émission diffusée la première fois le 15 juin 1985. Personnage anglais dans une île de Jean-Noël Vuernet a été réédité en 2005 aux éditions Ligne, un an après son Philosophe artiste.